Bonjour Raymond Bouchard au micro, eh bien nous nous retrouvons pour l'émission Mosaïque.
Que nous faisons dans des conditions du confinement. Voilà. Merci à Jean Bodvini pour les Juifs, Catherine Bianchi pour l'Église protestante unie, Jean-Pierre Dubreuil pour les humanistes, Chantal Matelet pour les catholiques, Alain Jeunesse pour les humanistes, de rejoindre cette émission. Alors je crois que Jean, vous vouliez rappeler l'anniversaire du 13 juin.
Oui, je voulais vous informer de cet anniversaire qui devrait être célébré par l'Association des Amitiés Judéo-Chrétiennes qui ont été fondées en 1948. Cet anniversaire va commémorer le 13 juin 1960, il y a donc 60 ans, l'épisode où l'historien bien connu Jules Isaac, et vous savez, des livres d'histoire malais Isaac, à l'époque il était âgé de 83 ans, il a rencontré en audience privée de 20 minutes le pape Jean XXIII à Rome. Il lui a demandé de revoir l'enseignement des rapports judéo-chrétiens sur la base historique et de créer une sous-commission chargée d'étudier la question. À la fin, Jules Isaac lui ayant demandé s'il avait une parcelle d'espoir sur sa demande, Jean XXIII lui a déclaré « Vous avez droit à plus que de l'espoir ». Et c'est ainsi que le pape, qui n'avait pas prévu de s'occuper de l'antisémitisme, a fait inscrire les relations de la religion chrétienne avec la juive dans le programme du Concile Vatican II. Et cela aboutit au paragraphe bien connu numéro 4 de Nostra Aetate en 1962. Et donc, j'ai pensé que pour notre association interreligieuse, c'était très intéressant de rappeler finalement nos origines et notre rencontre.
Bien, merci, parce que je vois encore que dans certains cas, il faut rappeler que Jésus est juif. Alors, je crois que les bientôt 70 ans n'ont pas toujours amené à entendre qu'il y avait des relations étroites entre le christianisme et le judaïsme. Mais c'est vrai aussi que dans l'histoire, ces relations ont plutôt été souvent très violentes.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà. Catherine, tu voudrais intervenir ?
Moi, je voulais simplement parler du confinement, que des initiatives spontanées de toutes les églises locales protestantes sur tout le territoire national ont initié pour garder le lien avec tous. Alors, c'était des... bien entendu, utiliser les outils modernes mis en place, les réseaux sociaux, pour des cultes, des temps de prière, des catéchèses à domicile, sans oublier, bien entendu, la chaîne téléphonique avec tous les isolés non informatisés. Et il se ressort que les mots de fraternité et convivialité ont changé un peu de forme, moindre pas, plus de mails et de téléphones. Et la participation au culte sur Internet a plus que doublé par rapport à la présence physique chaque dimanche au culte. Et chacun a pu ressentir un sentiment de proximité intensifié avec cette relation humaine, bien que vécue sans présence, mais elle a été renforcée. Pour la suite, il s'avère que certains temples historiques, délaissés par la baisse de la pratique religieuse et notamment les zones rurales, vont réouvrir cet été. Certains cultes seront bilingues, voire trilingues, alors avec une liturgie plus simple, une prédication assurée par un pasteur hébergé durant ses vacances, ou bien un pasteur retraité, ou bien un membre de la famille, des chants a cappella s'il n'y a pas d'organiste. Ce qui permettra aux vacanciers qui iront passer l'été dans leur maison de famille de poursuivre ces liens resserrés durant le confinement. Et le besoin de se rencontrer physiquement est réel et vital. Et pour partager le pain et le vin, même si la parole de Dieu a pu être annoncée durant ce temps de confinement. Et puis, dernier point, début juillet aura lieu une passerelle vers la suite en visioconférence organisée par l'Église protestante unie de France, communion luthérienne réformée, et également l'Union des Églises protestantes d'Alsace-Lorraine, qui sont toujours sous le concordat, toujours bien entendu luthéro-réformé, et à destination de celles et ceux, acteurs, pasteurs, conseillers presbytéraux ou personnes engagées qui font vivre l'Église d'aujourd'hui, qui l'inventent pour demain et souhaitent partager leur expérience, leur vécu et découvrir les initiatives des autres paroisses. Et je pense que toute cette période de confinement ouvre devant nous des nouvelles initiatives. Voilà.
Jean-Pierre, tu veux réagir ?
Moi, je veux dire ma satisfaction d'avoir vu l'ensemble des religions pratiquées en France suivre très simplement et efficacement les directives qui étaient données par les autorités de l'État. Quelques personnes par-ci, par-là, qui trouvent à redire, mais dans l'ensemble, je pense que ça, c'est très encourageant hein, de voir qu'il y a d'autres façons, comme déjà vient de l'expliquer Catherine, là, qu'il y a d'autres façons, pour une période qui ne peut être que courte, hein, c'est certain, de vivre la foi, les croyants, les uns avec les autres. C'est un des points qui m'ont rassuré. Et d'ailleurs, ça ne se passe pas partout pareil.
En t'entendant, Catherine, je me demandais si, dans le fond, le confinement avait favorisé des échanges de façon différente et provoqué quelque chose de nouveau, en fait.
Oui, je pense que les liens se sont plus resserrés. Je pense que chaque personne, chaque famille, chaque foyer confiné, quelque part, s'est remis en question et a remis les vraies valeurs en place et avait besoin de soutien extérieur. Et pour certains croyants, se sont rapprochés de leur Église. Et ces initiatives par réseaux sociaux, que ce soit des temps de prière, que ce soit télévisé ou par téléphone, même pour certains, a resserré les liens. Les gens se sont moins sentis isolés, perdus. Voilà. Et je pense que cette initiative début juillet des deux églises protestantes, que ce soit Unie de France ou d'Alsace-Lorraine, vont faire une analyse et échanger leurs expériences durant ce confinement et que ces initiatives vont perdurer pour poursuivre ce lien très resserré avec les paroissiens. Voilà.
Eh bien, Chantal, tu peux peut-être évoquer aussi comment se sont passées les choses dans l'église locale catholique.
Dans notre église, je dirais que pour revenir à ce qu'a dit Jean-Pierre, moi j'ai été très contente de voir que les autorités ecclésiales ont fait en sorte que nous soyons des citoyens responsables. Et ça, je trouve ça intéressant parce que on est chrétien, certes, on est catholique, mais on est aussi des citoyens français. Et ils nous ont incité à être des citoyens responsables et à faire attention et à suivre les consignes. Et en règle générale, les gens ont suivi les consignes. Hein. Alors, c'est vrai que, bon, comme tout un chacun, il y en a qui ont fait moins attention que d'autres, hein, bien sûr. Pour ce qui est localement, dans un premier temps, j'ai ressenti une espèce de temps de flottement. Voilà, un temps de flottement. Et puis après, il y a des choses qui se sont mises en route. Et de façon, je dirais, très spontanée, il y a une organisation par rapport à la catéchèse. Et le service de la catéchèse, avec les prêtres, se sont intéressés à joindre les familles pour que les familles avec les enfants continuent l'éducation religieuse. D'autre part, il y a eu un pas vers tous les gens pour les isoler, etc. Et alors, il y a quelque chose qui a été assez extraordinaire, c'est que le père Jean-Eudes Coulon, qui est fils d'un médecin de l'hôpital, nous a fait participer à une chaîne solidaire de confection de blouses pour l'hôpital. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire parce que c'est vrai que ça fait partie des besoins, surtout après avoir vécu le carême, être solidaire des autres, aller vers les autres, faire attention. Je trouve que ça allait parfaitement bien dans ce sens-là. Et pour moi, ça a été une façon de vivre mieux parce qu'on a été... On n'a pas pu vivre la Pâque ensemble, donc ça a été une façon de dire, bon, ben on continue, et ça, c'est ça la Pâque aussi, c'est faire bouger et agir en solidarité, voilà. D'autre part, je pense que pour ce qui est des célébrations et tout, il y a eu un intérêt particulier au niveau du diocèse et même au niveau national pour que tout le monde puisse, soit sur Internet, soit à la télé, prier, des temps de prière, des célébrations, de la messe tous les dimanches. au diocèse, on pouvait se connecter sur Internet. Et tous les matins, il y avait une messe qui était retransmise et dite à la cathédrale. Et je trouve ça, à la cathédrale, je ne sais pas, enfin, qui a été dite par deux prêtres.
Souvent dite à la cathédrale et
c'est ça.
Par Radio Grand-Ciel.
Voilà, et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça nous permettait de nous connecter. Et en fin de compte, on s'informait les uns les autres par Internet. Moi, j'ai su par une amie de Dreux, il y a ça qui est proposé. Donc, il y a eu une espèce de dynamisme où les prêtres et les laïcs, j'ai trouvé qu'il y avait une fraternité et un souci les uns des autres qui était assez étonnant. Et à cette occasion, j'ai pu remarquer que, quand je parle de fraternité, c'est vrai que les prêtres n'étaient pas là pour nous dire « faites ci, faites ça, faites ça ». C'était un partage, des propositions. C'est sûr que c'était eux qui nous proposaient, mais en même temps, on pouvait accepter ou pas. Voilà. D'autre part, il y a quelque chose par rapport aux célébrations où j'ai senti qu'il y avait une souffrance par rapport à tout ce qui était, disons, les obsèques, etc. Alors ça, par contre, ça a été très dur. Et là, j'ai entendu des gens de plus en plus, et même des prêtres qui disaient que pour eux, ça avait été très difficile de célébrer des obsèques qui étaient vouloir faire quelque chose pour les familles qui soient consistantes, mais en même temps, quand on est 10 dans une célébration, c'est très dur. D'autre part, il y a des gens par rapport au décès dans leur famille. Le confinement a été très dur, en particulier pour les personnes âgées. Et moi, j'ai personnellement une amie très proche de moi qui a beaucoup souffert et qui souffre encore de ne pas avoir pu voir son père pour aller l'accompagner. Et puis qui a vécu un enterrement qui était... on s'est senti un peu seul, voilà. Donc... Mais en règle générale, je pense qu'il y a eu un espèce de mouvement et je vois dans les journaux, en particulier dans La Croix, qu'on ne va pas recommencer comme si de rien n'était. On va retourner à la normale, comme disent les gens. Non, on ne va pas retourner à la normale parce qu'on ne peut pas... D'abord, qu'est-ce que c'est que la normale? Qu'est-ce que c'est que retourner à la normale? Qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie? On y va y participer tous les dimanches. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on va prendre sa messe, aller à sa messe? Ou est-ce qu'on se regroupe pourquoi? Dans quel sens? Et quel sens donner à ces temps dont on a été privé, plus ou moins? Voilà.
Mais merci Chantal. Alors, réaction des autres, acte du Chantal.
Oui, alors chez les protestants réformés, il y a eu beaucoup de cultes sur les réseaux sociaux, Skype ou Zoom, etc., où il y avait des moments de Sainte-Cène. Et chacun avait sa coupe et son pain devant son écran d'ordinateur ou de télévision. Par exemple, je pense à notre président de l'Église protestante unie, qui a fait un culte avec Sainte-Cène, et chacun avait son pain et son verre de vin pour participer à la Sainte-Cène. Donc, même si nous étions seuls devant son ordinateur, chacun se sentait en communauté, regroupé ensemble. Voilà.
Voilà quelque chose qui, effectivement, n'est pas chez les catholiques. Même si la messe à la télévision a doublé au moins son auditorat.
Oui, tout à fait.
Comment ça s'est passé le culte pour les Juifs, monsieur Bodini?
Eh bien, la communauté a été très impactée et toujours impactée par la maladie. Déjà avant le confinement, le 10 mars, avait eu lieu la fête de Pourim, la fête d'Esther, qui est une fête avec lecture du récit d'Esther dans les synagogues, avec des déguisements, avec des grands repas. Et comme c'était un peu avant le confinement, malheureusement, il y a une partie des communautés juives à Marseille, à Paris et à Lyon qui se sont retrouvées malades.
Ah oui,
ils se sont retrouvés malades puisque la maladie existait déjà avant le confinement. Le confinement a eu lieu le 16 mars et Pourim a eu lieu le 10 mars. Mais à partir du confinement, il y a eu une prise de parole du grand rabbin de France, Raïm Korshia, qui a recommandé absolument de rester chez soi et de se protéger ainsi qu'on nous le recommandait.
D'accord.
Mais l'impact a été encore plus prolongé puisque, comme vous le savez, ça a été montré à la télévision, les abattoirs ont été très touchés et donc les spécialistes de l'abattage cachère de la viande se sont retrouvés malades à 50%.
Alors.
Et donc il y a eu une grande diminution de la production de viande cachère. Je pense que d'ailleurs au niveau halal, ça a dû être probablement la même chose. Les traditions, vous savez, la circoncision est une obligation au 8e jour de naissance. Naturellement, ça a été repoussé après le confinement, en dehors de la possibilité de les faire dans les hôpitaux ou en clinique. Les mariages, vous parliez des enterrements, c'était aussi dramatique. Les mariages ont été repoussés. Des enterrements, c'est vrai qu'on comptait 10 personnes, des familles, donc c'est un impact très très important. Et il y a eu la fermeture des écoles, et les écoles juives en particulier, avec la réouverture il y a 15 jours, 3 semaines des écoles, sont pas tout à fait réouvertes du fait de la prise des moyens de transport en commun dans les grandes villes, comme par exemple à Paris. Il y a la sécurité à l'entrée dans la rue, comme vous voyez, les queues des élèves qui attendent avant de rentrer au fur et à mesure. Les écoles juives sont quand même un lieu de relatif danger, et donc de rester dans la rue fait frémir, et donc les écoles juives ne sont pas encore réouvertes. Quant aux synagogues, elles devraient réouvrir, mais avec une interdiction pour les gens de 70 ans d'y assister, comme pour les enfants de moins de 11 ans, de demander aux gens de s'inscrire sur Internet pour pouvoir participer, avec un engagement sur l'honneur qu'on n'est pas malade. Bref, tout ça, c'est très impactant. Mais enfin, il y a eu en France 152 000 cas de malades avec 29 000 morts. Dans le monde, 6 400 000 malades avec 382 000 morts. Donc, on peut pleurer après le confinement, mais c'est pratiquement la seule mesure valable actuellement pour lutter contre les épidémies. Et quand on voit sortir les gens sans masque dans la rue, comme si tout était fini, c'est un vrai crève-cœur.
Ah oui. C'est vrai, c'est vrai.
Mimoun, c'était la période du Ramadan aussi.
Oui, tout à fait. Nous, le Ramadan a commencé le 24 avril, donc en plein confinement. Donc fermeture de tous les lieux de culte, musulmans aussi. Et comme vous le savez, pendant le Ramadan, normalement l'activité spirituelle, c'est là qu'elle est la plus intense. Il est demandé à chaque musulman de méditer le Coran pendant ce mois. En général, on le vit dans les lieux de culte. Et là, les responsables des mosquées ont utilisé ces réseaux sociaux pour mettre en place des activités. Non pas faire de rituels, mais beaucoup de débats et de réflexions autour du Coran. Vous ne pouvez pas faire la prière en suivant un imam comme on peut le faire pour les chrétiens, via un écran télé. Mais par contre, on pouvait assister aux prêches du vendredi, mais la prière était demandée individuellement ou en famille, chacun dans sa demeure. Ainsi que la fin du Ramadan, ce qu'on appelle l'Aïd al-Fitr, c'était chacun chez soi, en famille. Déjà, c'est une première. C'est la première fois que je vis un Ramadan dans ces conditions-là. Mais je rejoins Chantal, c'est surtout concernant les décès qui ont eu lieu pendant le confinement, vu qu'on a été touché directement par une de tantes qui est décédée, dont l'intention était de la rapatrier dans son pays d'origine. Ça a été très, 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 très compliqué. Le rapatriement a pu se faire en Algérie, mais c'est sur un vol cargo. Donc, il n'y a personne qui a pu l'accompagner, sa famille, ses enfants, ses proches vivent en France. Hein. Donc, c'est des cousins, des amis qui l'ont récupéré en Algérie et qui l'ont enterré là-bas. Ça a été très difficile. Et les autorités algériennes, au niveau des papiers, des certificats médicaux, du médecin, qui certifiait que la défunte n'était pas atteinte du Covid-19. Elle a fait déjà un aller-retour sur Paris, Dreux, deux fois de suite.
Ah oui.
Ils avaient refusé les premiers certificats.
Ah oui, donc, voilà, ça fait un drôle d'effet, ça, j'imagine.
Ah oui, tout à fait. Ah oui, surtout, vous voyez le cercueil qui part du funérarium, normalement qui doit partir à l'aéroport, et 2 heures après, il revient pour le remettre au funérarium et aller au consulat, à l'ambassade, pour discuter avec eux. Il a fallu qu'on fasse intervenir le médecin traitant, qui a bien voulu faire un certificat. C'était une tante qui est décédée du cancer du côlon, à la maison, donc c'était très compliqué. Très compliqué, surtout pour ses enfants, qui n'ont pas pu assister. Il n'y a pas eu de prière, il n'y a pas eu... Tout à fait. Oui.
Et les obsèques, ça a été dur pour tout le monde, pas simplement pour ceux qui avaient un enterrement religieux.
Ah. Bien sûr,
ah oui.
Bien sûr. La communauté juive a créé pour ça une plateforme d'écoute avec psychologues pour aider les gens.
Mmh. Pour aider les gens qui avaient
la famille,
des choses à...
Ah oui, à affronter cette anomalie finalement de vie. Hein.
Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez l'impression que le... Moi, j'ai l'impression que la vitalité catholique que j'avais repérée, mais alors dans des formes tout à fait différentes, notamment ces blouses qui ont été faites, mais je trouvais que c'était très intéressant parce qu'elles ont été faites aussi par des tas de gens qui n'étaient pas du tout... qui se disaient, faire des blouses pour l'hôpital, c'est vraiment indispensable. Et ça, je trouvais que c'était intéressant de voir des gens de croyance... du cercle laïque, parce que l'information est passée par des canaux extrêmement différents, et donc la fabrication des blouses autour de l'hôpital, et des masques aussi, c'est quelque chose qui a vraiment réuni les gens. Là, j'ai eu l'impression qu'il y avait une solidarité qui transcendait complètement les religions, les appartenances politiques, et tout ce qu'on veut. On fait des masques, on fait des blouses, on s'entraide.
Oui, c'est vrai, vous avez pas fait, oui.
Mais pour ma part, les maraudes pour que des repas soient distribués avec les associations. Enfin, je trouve que là, il y a eu tout un vécu de solidarité qui n'existe pas d'habitude parce que c'est.
Oui, c'est-à-dire, c'est eu des bonnes choses et puis des mauvaises choses. Là, du jour au lendemain, on s'est retrouvé devant une situation inédite.
Oui.
Avec un arrêt complet en gros des activités, on sortait plus, on pouvait plus bouger, tout s'arrête. Alors, suivant que les gens avaient des conditions à peu près potables, avec une maison, un jardin, de l'espace, ça s'est à peu près bien passé. Puis il y a d'autres endroits où c'était beaucoup plus difficile, oui. Pour des étudiants dans des petits logements ou des familles dans des petits logements. Et puis on a vu des bonnes choses, la possibilité que les gens se parlent avec leurs voisins. On a vu que certains sont mis à la musique, à la lecture, mais on a aussi vu des choses moins sympathiques, comme une remontée très forte des violences envers les femmes, dans les familles où ça n'est pas fort. Pareil sur des violences envers les enfants. On a eu des choses intéressantes, parce qu'un peu nouvelles, l'enseignement à distance. Alors, ça s'est bien passé, les enfants avaient beaucoup de travail, mais c'est toujours pareil, il y a des inégalités, ceux qui n'avaient pas d'ordinateur... qui ne savaient pas bien s'en servir, etc. C'était un gros problème. Donc, il y a une partie des enfants qui ont décroché. Par contre, il y avait des choses sympas comme la chaîne Lumni. Moi, je ne connaissais pas cette chaîne. J'ai eu l'occasion de la regarder. J'ai trouvé que c'était une très bonne chaîne. Le problème du chômage qui va découler de cette situation. Beaucoup d'entreprises ont été touchées gravement. Des bars, des restaurants, des commerces. Certains métiers... tous ces événements culturels qui ont lieu d'habitude qui ont été annulés. Actuellement, les artistes, ils sont quasiment sans emploi encore pour un moment. Théâtre fermé, cinéma fermé. Pareil pour les manifestations sportives et culturelles. Donc voilà, il y a eu du bon dans la mesure où les gens se parlent. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi des mauvaises choses. Moi, un truc aussi qui m'a intéressé, c'est le télétravail, parce que je suis assez favorable à cette formule. Je connais des personnes qui travaillent à l'autre bout de Paris, qui se tapent 1h30 de trajet le matin et le soir. Et bien là, avec le travail, elles ont économisé 3 heures par jour où elles pouvaient être en meilleure condition pour travailler, c'est-à-dire reposer, pas fatiguer comme d'habitude. Alors, bien sûr, quand on voit les images où les gens sont collés les uns sur les autres dans les transports, ça nous interpelle. Par exemple, pourquoi interdire aux gens de marcher le long de la plage alors qu'il n'y a personne ou en forêt? Alors, pourquoi fermer les parcs dans les endroits où les gens ont besoin de prendre l'air? Voilà, le confinement, c'est quand même difficile. Hein. On n'est pas trop préparé à ça. Et voilà, en gros, ce que je voulais dire. Hein, c'est...
Peut-être parce qu'on ne connaît pas vraiment encore cette maladie. Hein. On en apprend tous les jours et... vous avez aujourd'hui un médecin qui vous dit une chose, le lendemain vous en avez un autre qui dit le contraire. C'est pour ça qu'on avance à tâtons là.
De fait, là il y avait effectivement des
querelles.
Communications très très contradictoires, effectivement.
Des querelles humaines. Est-ce que vous savez que Pasteur, il a été très, très critiqué par l'Académie de médecine, puisqu'il n'était pas médecin.
Oui, oui.
Ah,
ben oui. Oui.
Donc, c'est pas nouveau, ces querelles. Ces querelles des groupes ne sont pas celles. Et Pasteur, c'est quand même notre grand national, grand international, grand mondial.
C'est vrai, les conflits entre Pasteur et Corps, bon, et puis Corps, c'est effectivement.
Alors, bon. Le conflit entre Raoult et puis notre ministre, bon, c'est rien à côté.
Oui. Donc, ça nous rassure, hein, finalement. Il n'y a pas qu'à notre époque.
Oui, oui, non, non, il faut prendre un peu de recul, relire les choses, garder vos journaux d'une semaine sur l'autre et puis comparer entre ce qui a été dit il y a 8 jours et ce qui est dit maintenant. Et ça vous évitera d'avoir trop de mal à finalement à savoir où vous en êtes.
C'est vrai. Bon,
il y a une question que je me pose, c'est le déconfinement, là. Et ce que je disais tout à l'heure, le désir de retour à la normale, comme on dit. Est-ce qu'on va, avec tout ce qui s'est fait, tout ce qui a été positif et même négatif, qu'est-ce qu'on va en tirer? Est-ce qu'on va recommencer, reprendre la route comme avant? Alors que c'est pas possible. Hein, on a vécu quelque chose et on vit encore quelque chose de très particulier. Et je me dis, comment on va bouger à tous les niveaux? Comment on va bouger? Dans quel sens on va bouger? Et est-ce qu'on va être des moutons qui allons reprendre nos rails et puis tout va bien? Et puis voilà. Hein, et puis il y en a qui vont rester sur le bord de la route, de toute façon, qui étaient déjà sur le bord de la route. Et puis il y en a d'autres qui vont avancer dans le sens d'aller plus vite, de retrouver la normale, de retrouver... Moi, je me pose plein de questions par rapport à ça. Et je me dis... Je l'ai dit d'ailleurs à certains catholiques autour de moi, il faudra qu'on réfléchisse. Au-delà de nos pratiques, au-delà comment on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on peut vivre demain, hein, qui ne soit pas, entre guillemets, la normale comme avant. Voilà.
Ouais, moi, je dirais que le temps de la réflexion est dépassé. Hein. Là, il faut changer totalement. Là.
Absolument.
La réflexion, il faut tout changer radicalement.
Absolument. Absolument. Je pense que c'est une remise en question et avec continuer à avancer dans la vie, mais différemment, avec prudence, avec confiance, mais différemment. Il faut changer ses habitudes et, comme dit Chantal, on ne peut pas revenir à la vie normale. On peut reprendre des activités, etc., mais différemment.
C'est vrai qu'il y a le fait à regarder comment nous fonctionnons, comment nous consommons, etc.
Voilà, ça fait.
Je pense de toute façon que le contexte écologique de la planète va faire changer les choses.
Vous savez, nous avons un pouvoir et le pouvoir est au bout de notre bulletin de vote. Oui. Et donc, vous saurez la semaine prochaine, dans 15 jours, je ne sais pas quand, à la fin du mois, déjà la direction que les gens veulent avoir avec le résultat de ces petites élections municipales. Oui. Vous saurez déjà quelle va être la direction, non pas imposée, mais que chacun veut donner à sa propre vie en mettant son bulletin de vote dans l'urne. Tout au moins pour les gens qui doivent voter. Voilà.
Eh bien voilà.
Et je suis sans illusion pour ma part.
Non, mais je pense qu'il faut avoir des utopies et puis peut-être avoir une certaine modestie dans ces utopies, mais qu'il y ait quelques changements, c'est peut-être ce qu'on peut espérer. Et des changements positifs pour tous les hommes. Et puis être des résistants et pas des moutons.
Résisteur, tu dis ça à une protestante. Résisteur, tu penses qu'on est des résistants, nous, hein, ça, on sait faire.
Eh bien, vous savez que le temps s'écoule et qu'après, on est obligé de tenir dans une demi-heure.
Aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous.
Égalité et respect dans le monde entier. Mieux communiquer et nous respecter.
Tous frères et sœurs, s'entraider, mais surtout s'aimer.